J'ai une question ouverte à la fois à vous, Monica, et puis à nos deux amis. Dans les résultats tels que vous avez commencé de les exploiter, quelle confirmation ou quel étonnement vous avez dans le rapport justement entre la représentation de ce qu'on imagine ou on est assuré d'être, ce qu'est la démocratie pour les gens traités, et justement sur l'évaluation, ce qu'ils jugent, c'est-à-dire cet écart-là. Comment en étonnement ou en confirmation, vous trouvez des choses dans ce module? Et comment vous voyez les choses sur cet écart-là, de manière plus générale, à la fois dans vos travaux qui ne sont pas liés à l'ESS, mais sur cette question qui est vraiment une question clé, c'est-à-dire qui n'est pas spécifique à l'Europe, mais qui prend une tonalité particulière. Parce que j'ai une deuxième question derrière, je ne vais pas mélanger les choses, parce que c'est évolutif et c'est historique, en fait, comme problème. Mais je ne veux pas mélanger. Donc d'abord, sur ma première question sur l'écart et votre étonnement.
Ah oui, c'est une question fondamentale. D'essayer de répondre maintenant quelle est la relation avec, entre comment les gens voient la démocratie et comment ils l'évaluent. Et je dois dire que ça change vraiment de pays à pays. Il n'y a pas vraiment la même relation dans la France que dans l'Espagne. Bon, je ne me souviens plus exactement comment ça marche. C'est vraiment différent de pays à pays. Il n'y a pas seulement l'histoire qui est importante, mais par exemple les groupes sociaux là, je parlais avant, là c'est clairement un des chapitres qu'on est en train de travailler maintenant autour dessus. Il montre clairement que ça dépend de ton niveau éducatif et tout ça. Dans ton contexte, tu réponds diversement pour réprimer les hommes et tout ça. Mais c'est vraiment des choses qu'on est en train d'essayer de travailler là. C'est vraiment intéressant parce que ça change. On espérait trouver quelque chose de plus
standard. Jérôme, il y a cette chose, cette différenciation, pas forcément dans les résultats, mais de ce problème entre représentation de quelque chose, et en l'occurrence la démocratie, t'approches sur les questions françaises, et puis l'évaluation du moment. D'ailleurs, lorsqu'on est dans une élection, c'est souvent une évaluation du moment.
Là, je voulais savoir si, par exemple, vous avez quand même des grandes constantes qui ressortent pays par pays, c'est-à-dire qu'il y a des variables qui vont dans le même sens sur le diplôme, sur la profession.
Ça, par exemple, ça marche dans tous les pays, parce que tu les combines avec le contexte. Alors, ça, si tu croises niveau éducatif et contexte, tu as vraiment la relation. Mais tu dois toujours mettre le contexte, parce que c'est différent, les relations sont vraiment différentes.
D'accord. Et la variable, le niveau d'âge, sur les générations, il y a des choses qui se...
Le niveau d'âge, on n'a pas tellement exploité. On a exploité seulement sur le type de représentation qu'ils préfèrent. Ils préfèrent demander ou trustee. Et il paraît que là, il y a eu un changement. Les générations plus jeunes, elles préfèrent
le mandat.
Et les plus vieilles,
d'accord. D'accord.
Nicolas, sur cette question écart, représentation et évaluation.
Pour répondre à ça, on est en train d'écrire avec un collègue un petit livre sur la démocratie française et un petit peu le point de départ ou le paradoxe qu'on essaye de travailler sur la démocratie en France et sur ses éventuels problèmes, c'est qu'il nous semble paradoxal qu'a priori, d'une manière comparative, dans des mesures qu'on a jusqu'à présent, la France est à la fois un des pays les plus cyniques et en même temps où les attentes sont les plus importantes. Donc il y a à la fois ce mélange d'un pessimisme global sur la capacité du politique, mais où il y a une utopie ou un rêve de politique très puissante qui est totale, ou un rêve d'État, en tout cas, de politique. Là, c'est un petit peu compliqué de différencier les deux niveaux. Et donc, pour nous, c'est un des endroits où le problème français se situe, et que nous, on entendrait expliquer pour l'instant, notamment par la question des institutions, et notamment par la question des campagnes présidentielles. On a typiquement cette vision systématique de promesses qui ne seront pas tenues, qui ne peuvent pas être tenues, mais dans le même temps, une attente de promesses systématiques. Et un candidat qui ne fait pas de promesses, on peut se rappeler un peu de Jospin ou de Balladur, c'est un candidat qui perd. Et donc il y a ce paradoxe-là qu'on aimerait aller plus loin et avec des données le mieux le comprendre et qui est très résistant aux données pour l'instant.
Sur cette représentation de la démocratie, et donc ce qu'elle devrait être, ce qu'on souhaite qu'elle soit,
Est-ce que, vous l'avez présenté là, vous voyez des écarts très significatifs à souligner selon les différentes parties d'Europe, justement? Ou au contraire, alors de trois schémas possibles, des représentations très différentes déjà existantes, ancrées, déjà lisibles, alors pas dans un module démocratie, mais peut-être dans d'autres évaluations, et qui sont stables. Ou au contraire, des représentations différentes, mais qui convergent vers un modèle différent, c'est-à-dire un cas d'homogénéisation dans le contexte de l'Union européenne. Ou au contraire, à l'inverse, des situations qui divergent, qui partent d'une situation qui était plus stable, en gros avant 2008, par exemple, et de ces crises difficiles, et qui tendent à diverger. Est-ce que le module sur la démocratie peut apporter un peu d'enseignement sur le sujet, ou le fait qu'il soit mesure unique, pas complètement raccrochable aux autres, ne permet pas de répondre à cette lecture de trajectoire?
Confiance
publique.
Quand même ça, on peut comparer, on voit l'effet que ça fait sur les attitudes de la démocratie en Europe, on ne peut pas vraiment comparer, mais c'est vrai que sur les représentations, il y a vraiment des différences sur les mémoires de l'Europe, surtout sur la dimension sociale. Et je ne crois pas que ce soit simplement ça à faire avec la crise, mais en Espagne, traditionnellement, on compte beaucoup sur l'État, alors je pense que c'est quelque chose qui vient aussi. Il faudrait un autre module un peu plus tard.
Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux de cette question dont je sais qu'elle n'est pas complètement dans la réponse, mais qui est un problème fort pour à la fois chaque pays et puis l'Union européenne de cette trajectoire convergente ou pas sur la représentation et l'idée de démocratie dans cet ensemble, de ce que vous savez
Moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a deux problèmes différents. Il y a la question du fonctionnement, un peu des approches qu'on peut avoir, des définitions de la démocratie, où là, on a toute une littérature qui est assez solide, autour de l'IPART, par exemple, sur ces modèles, sur laquelle il y a une question qui ne permet pas complètement, du coup, de recouper. Et cette question de l'évaluation de la démocratie, dans quelle mesure ça fonctionne bien ou pas. Et fondamentalement, là, les questions sur les représentations de la démocratie restent essentiellement quand même ancrées sur une démocratie par les droits, qui est assez différente des approches sur les types de démocratie ou la variété des types de démocratie. C'est pas très séquent, du coup, c'est pas très facile de les rapprocher. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit du point de vue des institutions, là que je connais bien, c'est qu'il n'y a pas de rapprochement, ça c'est clair, qu'il y a des modèles de démocratie, de systèmes institutionnels qui sont très différents, qui ne sont absolument pas convergents, toute la question étant de savoir, et l'Europe là-dedans, à quel modèle elle correspond au mieux. Et ça, est-ce que c'est un modèle en soi ou pas? La question n'est pas réglée, en tout cas, reste débattue. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir dans les représentations? Là, il faudra voir, enfin, il faut analyser plus les résultats. Et c'est évidemment pas moi qui suis le mieux placé pour le voir, mais il me semble qu'il y a des réactions par rapport, alors moins en termes de représentation de la démocratie, mais des réactions en termes de fonctionnement de la démocratie, où il y a des convergences relativement évidentes, hein, qui sont des convergences autour des questions du populisme, qui touchent aujourd'hui l'essentiel des pays en Europe, sous des formes effectivement variées, mais qui sont à challenge global. Il y a cette question du cynisme, finalement de la défiance par rapport au système, qui devient même en Allemagne, dans ces pays où la démocratie était vraiment une norme consensuelle et peu remise en cause, et qui deviennent de plus en plus sur le devant de la scène, mais avec des formes évidemment différentes. L'AFD, ce n'est pas la même chose que Podemos, ça on est d'accord.
Jérôme ?
C'est pour ça que tout à l'heure je posais en partie la question sur les différences par âge, parce qu'avec une seule vague d'enquête, il pourrait y avoir éventuellement... un élément de réponse qui vaudrait ce qu'il vaudrait, c'est de regarder si on a des réponses qui commencent à converger sur les plus jeunes générations et au contraire qui continuent d'être très divergentes. Voilà ce que les nouvelles générations qui arrivent ont été socialisées différemment et commencent à réagir pareil ou pas. Je suis pas vu de loin comme ça, je sais pas, évident que la réponse soit positive. Je pense que Nicolas a raison. Les modèles politiques, ils ont quand même encore de beaux restes, et même s'ils sont en crise, ils continuent de structurer fortement les choses. Mais ce serait intéressant on a vu, hein, notamment avec la crise, parlais de Podemos tout à l'heure, les mouvements de jeunesse sur les indignés en France, etc., avec les nouveaux réseaux sociaux, enfin les réseaux sociaux, pas les nouveaux. Est-ce que tout ça, est-ce que ça crée une nouvelle forme de citoyenneté, une nouvelle pratique? Donc ça, je pense, ça peut être un champ aussi intéressant par génération, l'analyse par tranche d'âge.
Rory, do you want to say something about this thing?
I think for me the most, in some ways the most startling finding was the convergence between the respondents' own evaluations of democracy and the elite views. And I think A, that gives us a lot of confidence in the findings from the survey, and also it suggests that there's a lot of overlap, a lot of convergence there. And I think we've also seen in some of the other modules in the ESS, there really is still a lot of divergence in Europe. So one of the other modules we had a few years ago was on trust in the police and courts. And we see from this module that trust being treated equally before the law is obviously a big concern in many countries. And yet, you know, with the kind of policy we have in Europe now is for a single arrest warrant system where people can be extradited at relative ease between countries. And yet we see in some countries the levels of trust in people's own court systems is extremely low. And I think this highlights the kind of challenges we have, and that they are reflected in maybe in that issue, the question about the importance of listening to other European governments. Just correction on that. It's not attitudes towards the EU, is it? The question asked, I think. But attitudes to other European governments rather than the European Union in particular. So I think some of the findings are relatively similar, but beneath them there is still sort of a lot of divergence and challenges for the European project there.